le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec les comédiens Stéphane Varipen, qui est sociétaire, et Eliott Génicot, qui est pensionnaire, la journaliste grand reporter Laetitia Sénac et le dessinateur Damien Roudot, pour pénétrer dans le sein du sein, dans les coulisses de la comédie française. C'est aussi le titre d'un magnifique livre paru aux éditions de La Martinière, qui a fait un travail d'édition, mais nous en reparlerons, assez remarquable. Vous l'avez compris, aujourd'hui, le temps buissonnier passe par la comédie française. Chers auditeurs, vous savez combien je suis exaspérée par mes deux petits amis rebelles, mais vous savez aussi combien je les aime et vos courriers à leur propos me prouvent que nous sommes nombreux à les aimer. L'heure est grave pour Carmela et son fidèle grillon Negrito. Depuis le week-end dernier, Carmela et Negrito occupent la salle du cinéma François Mitterrand de notre village de Haute-Ariège avec une cinquantaine de swaggers. Negrito est venu d'un coup d'aile me chercher au village. « Allez, allez, vite, vite, habille-toi, suis-moi. »« Mais pour aller où, Negrito ? Et où est Carmela ? Fais-moi confiance, vite, les swaggers nous attendent. »« Les swaggers ? Mais qu'est-ce à coup ?» Cet insolent de grillon soupira avant de me répondre d'un ton très théâtral. Quels sont ces rustiques personnages qui font ici les fanfarons? Ça te dit quelque chose? William Shakespeare, tu vois? Le songe d'une nuit d'été? Ah oui, donc ça veut dire fanfaron, c'est ça? Pas tout à fait, nous on préfère dire fier, digne, mais sans se prendre au sérieux, tu vois? Eh bien j'ai vu une centaine d'adolescents de partout en France et de plusieurs continents, dont de nombreux hackers, m'ont remis un message à lire lorsqu'ils m'en donneraient le signal. Donc je l'ai trahi en vous le lisant aujourd'hui, mais c'est pour que vous m'aidiez à les dissuader d'aller jusqu'au bout de leur action. Je vous le lis. Le monde, votre monde, nous ignore. Vos télés et vos journaux, mais aussi souvent vos films, nous caricaturent. Vos élus nous assignent à des vies de surnuméraires dans des ghettos. Le gouvernement et les actionnaires des entreprises nous réduisent à des chiffres de masse salariale, de charges ou de coûts sociaux. Les puissants, les riches ne veulent surtout pas risquer de partager leurs richesses économiques, culturelles et symboliques. Nous avons donc décidé de dire « ça suffit ». C'est beau et fier de ce que nous sommes, libres de rêver et de construire notre avenir, que nous nous présenterons à vous aujourd'hui dans tous les cinémas de France et sur tous les écrans par le film « Swaggers » d'Olivier Babinet. Nous avons piraté tous les écrans pour 24 heures afin que tous les Français voient ce film et entendent les ados d'Aulnay et de Sevran. Aïssatou et ses silences par exemple, Régis et son nœud papillon qui nous confie lucide « Je ne suis pas Beyoncé, mais je suis appréciée des gens, on va dire comme ça. Barack Obama a du style, il sait marcher, lui. Alors que François Hollande, quand il marche... Naila, par exemple, elle déteste Mickey et les poupées Barbie et rêve de devenir architecte pour construire des maisons plus belles et plus confortables d'où l'on ne puisse pas tomber du 7e étage comme son petit voisin. Et Elvis... À 12 ans, je suis venue ici en France pour habiter avec mes parents. Mon plus beau souvenir, c'était de venir ici. Et Mariama, si je revivais mon enfance, j'essaierais de parler plus fort, de parler plus, d'être moins discrète. Donc, tous ces gens, vous allez les rencontrer dans ce film. Et nous libérerons les écrans et les cinémas lorsque l'État acceptera d'organiser un grand débat national sur une semaine dans toutes les mairies, les écoles, les théâtres, etc. Plus personne n'ira travailler pendant une semaine. Comprenez que nous, nous sommes déterminés à ne plus baisser la tête, à ne plus faire semblant de croire que les gens de pouvoir méritent leur pouvoir et à ne plus laisser ce monde massacrer nos rêves et nos vies. « Merci à tous d'être autour de cette table pour venir nous parler de la comédie française. Alors, nous y sommes déplacés parfois avec cette émission, à l'occasion de pièces. Mais là, c'est vous qui êtes venu pour accompagner les deux auteurs de ce magnifique ouvrage aux éditions de La Martinière, c'est-à-dire Laetitia Sénac pour le texte et Damien Roudeau pour les illustrations. Mais je voudrais savoir, Stéphane Varipen, vous qui êtes sociétaire, ou vous, Elliot Génicot, qui êtes pensionnaire, est-ce que ce livre était nécessaire pour vous pour sortir l'institution, malgré tous ses efforts, je ne sais pas si elle en fait beaucoup, elle en fait quelques-uns, c'est sûr, de... peut-être pas du mystère, parce que ça, c'est plutôt agréable, mais de la peur, parce que ça n'est presque là, ou en tout cas de la timidité qu'elle peut insuffler à des gens qui n'oseront jamais passer cette porte.
Bah, je pense que de toute façon, à partir du moment où on sort un livre comme ça, on apprend des choses.
Ça, c'est sûr.
Et donc, le public qui va être intéressé par la maison... Enfin, moi, j'en connais pas beaucoup des bouquins qui dévoilent un peu ce qui se passe dans les coulisses, ou en tout cas, je n'y ai jamais fait attention, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui donne des informations, on apprend des choses, on découvre des personnes qui ne sont pas souvent mises à l'honneur. En l'occurrence, on parle des habilleuses, des décorateurs, des tapissiers, des coiffeurs, etc. Tout ça, je trouve ça super. Et tout le monde est mis sur un plan d'égalité, je veux dire, au niveau du dessin. Enfin, il y a quelque chose de très juste et de très équitable. Donc, je trouve ça super d'avoir fait ce livre. Ça, c'est mon avis de pensionnaire.
Mais votre avis de sociétaire.
Non, mais c'est vrai qu'il y a déjà eu quand même pas mal de documentaires, d'émissions de radio sur la comédie française qui ont déjà un peu ouvert cette maison à tous. Alors là, c'est vrai que sur ce livre, il y a un côté ludique qui est vraiment intéressant aussi pour un plus jeune public, un peu à l'image de ce bouquin qui était l'histoire du théâtre de Degen, je crois, aussi à travers la bande dessinée qui racontait d'une manière, oui, plus joyeuse et ludique le théâtre. Donc.
Alors, j'imagine que vous avez été bien reçu parce qu'il s'agit de reportage, Laetitia Sénac, et vraiment, c'est indiqué sur la couverture du livre, et vous êtes grand reporter et vous êtes parti 4 mois dans cette aventure.
Oui, on a passé 4 mois. En fait, c'est un journal de bord, c'est un reportage au long cours, puisque une des métaphores pour désigner la comédie française, c'est de dire que c'est un navire. Enfin, chacun s'en fait son idée, mais nous, on est parti du principe que c'était un navire. On a même baptisé l'administrateur capitaine Ruff. Et voilà, donc pendant 4 mois, Damien et moi, on a suivi, comme le disait Elliot, tous les métiers, la troupe, hein, qu'on connaît davantage, évidemment. Nous, c'était super d'aller dans les loges, d'aller dans ces endroits un peu privés, etc., de déjeuner avec les comédiens à la cantine. Hein. On avait ça pouvait être vous deux, ça pouvait être Michel Villermoz, Podalides, etc., qui étaient comme ça assis à côté de nous. En plus, je trouve que la cantine est magnifique. Hein. Elle donne sur les jardins du Palais Royal, donc on a une vue
sur les colonnes,
exactement. Oui. On a épousé le quotidien comme ça de cette maison.
Est-ce que c'est facile d'être dans les coulisses? Parce que pour y être allé beaucoup moins, c'est impressionnant. Il y a des planchers qui craquent, il faut pas faire de bruit. On sent quand même que bon, voilà, on a besoin sans doute hein, de ce huis clos pour pouvoir se concentrer. Entrer, préparer, créer, je ne reviens pas là-dessus, mais voilà, on est impressionné par...
Oui, mais on passe très vite quand même les heures de la République, comme ça, voilà, c'est sur le premier instant, mais à partir du moment où on a l'accord, effectivement, on est vraiment embarqué dans le navire. Il s'agit juste de se coller au rythme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce rythme de l'alternance de la comédie française. Nombre de régisseurs nous ont parlé de ces centimètres et de ces secondes qu'ils essaient de grappiller pour que tout puisse bien s'emboîter, que les spectacles puissent passer de l'un à l'autre. Et effectivement, tous ces comédiens font vraiment un travail d'athlète, quoi, puisqu'ils jouent souvent deux pièces dans la même journée avec quelques minutes entre les deux, à peine le temps d'avaler un sandwich. Donc, le deal était très clair. C'est-à-dire qu'on avait un planning sur ces 4 mois qui était vraiment calculé à la seconde près, qui était remanié de jour en jour. C'est-à-dire qu'on avait à peu près 6 mails échangés avec Vanessa Freinet, qui s'occupait de nous et des relations avec la presse. Donc elle servait vraiment d'interface entre les acteurs et puis bah, tous ces 400 personnes qui travaillent pour que le spectacle puisse avoir lieu tous les soirs. Et donc bah, voilà, c'était remanié sans cesse. Et oui, je ne sais pas combien de centaines de mails on a échangé pour pouvoir caler effectivement quelques minutes avec chacun et chacune.
Alors, on élude pas grand-chose, et ça, je vous félicite, parce que dès le début, on va parler de la troupe, parce que bien sûr, c'est avant tout les comédiens.
C'est la star, la troupe. Hein,
voilà, c'est la star. Bah, ouais, c'est ce
surtout parti. De la troupe qu'on pourra... On pourra vous donner des infos sur la troupe. On ne pourra pas vous donner des infos sur les habilleuses et on n'a pas le droit.
Mais...
sur les acteurs, on peut vous dire des choses.
Ce que je remarquais, c'est que Denis Podalydès, par exemple, on le cite, il y a beaucoup de citations, hein, donc oui. C'est vraiment un travail de reportage. Travailler en troupe, c'est à la fois ce qu'il y a de plus excellent, de plus puissant et de plus fragile. Fragilité dans les rapports parfois difficiles, mais chance, car cette troupe dure et est nombreuse. Mais on sent quand même que vivre sur un navire, pour filer la métaphore, avec ce rythme dont on parle, avec cette responsabilité de ces textes nombreux que vous jouez en alternance, ça exacerbe peut-être les rapports humains, non ? Pas toujours facile.
Bon, je pense pas forcément. Je pense pas forcément plus que dans d'autres théâtres où. Mais c'est vrai quoi, ouais, l'effervescence, du coup la fatigue, tout ça peuvent éventuellement. Mais en même temps, c'est un métier qui se crée avec des passions, donc donc c'est pour ça que je dis pas forcément, il y a pas forcément plus de.
Mais ni moins.
Non, c'est un peu comme dans une famille quoi. Donc il y a des moments où on s'entend moins avec son frère et puis on se réconcilie le lendemain. Enfin voilà.
Ouais, c'est une famille qui se retrouve très souvent, parce que c'est vrai que les familles se retrouvent le dimanche, tandis que là, on se retrouve tous les jours. mais c'est vrai que c'est une maison qui est assez dingue, parce qu'on se croise beaucoup. En général, on peut faire partie d'une compagnie, ou alors on peut être engagé dans un théâtre pour jouer une pièce pendant X mois. Mais là, on est beaucoup ensemble. Donc, le côté familial, il est vraiment présent. Ma femme me dit parfois, mais tu passes plus de temps à la Comédie-Française qu'avec nous. Et ce qui est vrai, on est beaucoup présent.
Mais je crois que les rapports quand même se sont assouplis quand même. Avant, il y avait quand même plus de guerres claniques. Avant, je dis dans le temps.
Ah oui. Non, il n'y a plus de clan, il n'y a plus vraiment d'hiérarchie non plus. Enfin, ou en tout cas, elle ne se fait pas ressentir dans les rapports humains. Il y a une simplicité qui est là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de soutien. On se sent quand même porté par cette troupe, souvent plus que mis à l'écart ou je ne sais quoi.
Alors, ce qui fait rêver, et je ne sais pas qui de vous a employé le mot ludique, je crois que c'est vous, Stéphane Varipen, c'est ce qui fait rêver, ce sont quand même ce qui habille les comédiens, c'est-à-dire les masques, les marionnettes, les coiffures. Et là, vous avez dû vous régaler, Damien Roudeau, parce que, par exemple, la page qui est consacrée à Christian Eck, les deux pages
oui,
qui
se font face à face. Oui, un milieu sous les mers qui a la particularité d'être à la fois un spectacle d'acteurs et de marionnettes.
Et dans lequel Elliot jouait.
Oui.
Oui.
Merveilleusement.
Oui. Mais disons que c'est un spectacle qui, ce n'est pas habituel de jouer un spectacle comme ça. Donc c'était un peu une nouveauté d'avoir cette entrée de la marionnette à la Comédie Française. D'ailleurs, je pense qu'il y avait eu un spectacle Don Quichotte, je crois.
Ah, il y avait eu un spectacle où j'avais vu des marionnettes.
C'est ça, des marionnettes.
Oui. Mais donc en l'occurrence,
c'était quand même un travail assez particulier pour nous. Et Christian s'était entouré d'acteurs qui avait un petit peu cette capacité, cette aptitude à pouvoir utiliser le corps ou de jouer en tout cas avec une marionnette, parce que ça nécessite un peu de technique malgré tout.
Mais je relève que vous êtes arrêté sur la double page la plus fouillée effectivement, parce que ces marionnettes là étaient celles les acteurs qui bougeaient le moins effectivement pour pouvoir les dessiner, puisque là du coup j'ai fait tous les croquis.
Alors je me suis posé cette question
entre les spectacles.
Est-ce que vous les avez fait parce que vous avez vu les spectacles puis vous avez dessiné et pendant et après sans gêner si c'est pendant, ou est-ce qu'il y a un lieu merveilleux où l'on met tous les costumes, où l'on met toutes les marionnettes.
C'était précisément dans les coulisses et dans les loges en fait. Donc voilà, on m'a ouvert le vieux Colombier les jours entre les représentations et donc j'ai pu passer un petit peu de temps pour croquer toute cette mécanique de l'illusion quoi, puisque effectivement on a vraiment cette magie. Enfin, c'est vraiment conseillé là pour les adultes comme les enfants d'aller voir ce spectacle.
Faut peut-être dire aux auditeurs qu'en fait la Comédie Française sont trois salles.
Oui, alors on va y venir. Oui, c'est important parce que vous êtes allé aux trois.
Oui.
Ah ben alors, allez-y.
Puis justement, donc il y a la salle Richelieu qui est dans la Comédie Française même, et puis ensuite il y a le vieux Colombier,
la Scolette,
exactement. Il y a le vieux Colombier qui est à Saint-Germain-des-Prés, et il y a le Studio Théâtre qui est dans la pyramide, au carrousel du Louvre.
Carrousel du Louvre. Voilà. Oui.
Donc ce sont trois salles et peut-être une quatrième bientôt. Non.
Le bientôt
il y a
quelques
prématuré.
Années quand même,
oui.
Mais quand même, oui.
pour d'autres spectacles et des mises en scène plus bifrontales ou plus compliquées.
Mais qui ne serait pas une quatrième salle, qui viendrait éventuellement remplacer.
Ah, elle remplacerait une autre.
Est-ce que vous êtes, puisqu'on parle, mais on reviendra au dessin, mais j'en profite, puisque vous avez pris la parole, Stéphane Varipen, et que vous êtes sociétaire, il y a, on a dit, moins de hiérarchie, etc., mais il y a quand même une administration très particulière, avec un conseil d'administration où des comédiens choisis par leur père sont représentés, et il y a ces fameux semainiers qui sont des comédiens qui une semaine par mois, par tous les combien.
Ouais, on est à peu près 9 au comité, donc on se partage tout au long de l'année les semaines. Donc on a à peu près, je sais pas, chacun 4 semaines.
Cette semaine, quelle est votre responsabilité en dehors de vos rôles et de votre travail de comédien?
Eh bien, en fait, c'est de veiller à ce que la représentation se passe bien. Si au cas où il y a un problème, d'être là pour pouvoir faire une annonce, d'être là éventuellement pour pouvoir, c'est déjà arrivé, de remplacer un comédien, de lire son texte à la dernière minute.
Donc du coup, vous le lisez avec le livret ou vous savez pas tous les rôles quand même?
Non. ça peut arriver qu'on soit obligé de remplacer un comédien à la dernière minute. Dans ce cas-là, oui, on prend la brochure et puis bon, ça arrive très rarement quand même parce que et puis d'être là pour éventuellement noter s'il y a eu des problèmes techniques ou des choses à dire. Mais bon, voilà.
S'il y a eu du bruit dans les coulisses. Des petites choses comme ça, quoi.
Ah oui.
Si on s'est fait un petit bobo, il faut appeler le médecin parfois. Tout ça,
c'est amusant que cette responsabilité, on aurait pu imaginer qu'il y ait quelqu'un dédié à ce poste. Cette responsabilité, ça j'ai découvert ça dans votre livre, Laetitia Sénac et Damien Roudeau, cette responsabilité de toute la vie finalement de la troupe, elle incombe une semaine durant et pour en vous remplaçant à un comédien. Ça, c'est quand même... C'est de tradition, j'imagine, mais il y a quelque chose là derrière.
Mais c'est pour pouvoir rester proche, en fait, pour pouvoir toujours avoir un contact avec ses partenaires, même quand éventuellement on n'est pas distribué dans les spectacles. C'est pour continuer de faire partie de la vie de la troupe et puis de se tenir au courant, c'est très important.
Et vous aimez cette charge, parce que c'est une charge.
C'est déjà très intéressant de continuer à voir le fonctionnement de la maison. En comité, on parle d'autres choses, on ne parle pas que d'artistique, donc on parle de tout ce qui est annexe sur le fonctionnement, sur les budgets, et c'est très intéressant d'être investi de ça, quoi.
Alors, on va retrouver évidemment tous les métiers, comme on l'a dit, et notamment la coiffure. On va voir que des demandes de metteurs en scène sont parfois extravagantes. Vous citez Laetitia Sénac, une coiffure qui avait été demandée en barba papa.
Ah oui. Oui, parce qu'on demandait souvent quel était le souvenir le plus marquant ou la chose la plus incroyable qu'on ait demandé aux uns et aux autres. Et là, c'était donc une coiffeuse et elle nous expliquait que je ne sais plus quel metteur en scène lui avait demandé une coiffure en barbe à papa. Donc, à l'étage donc des coiffures, ça sentait bon la barbe à papa parce qu'il s'était muni d'un appareil. Il y en avait un qui était devenu expert. Et donc, il faisait des barbes à papa, mais ça tenait jamais. Donc en définitive, ils ont dû abandonner l'idée et ça s'est transformé en simplement chamallows qui ont été glissés dans le soutien-gorge de la comédienne. Tout ça pour dire le travail
et
de la création, en fait.
Vous êtes allé loin dans la précision. La perruque, finalement, c'est faite avec des poils de yak.
Alors ça, c'est Damien, le spécialiste des perruques.
Ah oui, non, mais...
C'est fou. Pourquoi aller dépenser tas d'argent pour avoir des poils de yak alors qu'on pourrait imaginer... C'est quand même une question que le public se pose à un moment donné. Hein.
Attendez, les illustrateurs, nous aussi, on prend des poils très spécifique d'animaux très étranges pour pouvoir
pour
peindre.
Vos pinceaux.
Vous savez que le martre et tout d'accord. Ça. Et ben non, mais le poil de yak, il est inimitable. Je suis pas sûr qu'il soit si
vous croyez
cher
qu'on
le si il est cher le poil de yak.
Bah bien sûr. Le spectateur voit que c'est du yak et pas de la fausse fourrure. Je vous vois sceptique parce que vous êtes comédien.
Non, parce que je n'ai jamais utilisé du poil de yak.
Ah bon, non, pour les périodes 18e, c'est du poil de yak.
Je ne le savais pas, mais voilà.
En même temps, utiliser du poil de yak, c'est pour éventuellement que les... Parce que souvent, il y a un stock à la Comédie Française et les perruques sont amenées à être éventuellement réutilisées, tout ça. Donc, c'est vrai que si on utilise du mauvais matériel, on ne pourra pas les réutiliser éventuellement.
Vous voyez, un sociétaire a le souci quand même. Je vous félicite.
Non, mais après, ça...
En plus, c'est vrai qu'on peut éventuellement dépenser plus d'argent sur une création. Et puis après, sur d'autres créations, il y a beaucoup de récupération. Donc, c'est pas...
Vous avez découvert beaucoup de choses dans ce livre, messieurs ?
Disons que...
En dehors du poil de yak.
Oui, pas vraiment, du poil de yak, voilà. Non, parce que c'est vrai qu'on fait quand même partie, tant qu'acteur, de la vie de la maison. Et qu'on est souvent en contact avec habilleuses, coiffeurs, les accessoiristes... donc c'est des gens qui font partie de notre vie quotidienne et on a un rapport aussi, je pense que ça a dû changer par rapport à une certaine époque. Il y a un rapport très amical entre tous ces corps de métier. Et en tout cas moi j'ai on est potes aussi avec son habilleuse et avec son coiffeur et c'est très agréable.
Alors, je reviens au dessin avec vous, Damien Roudot, parce que vous êtes régalé quand même. Il y a du portrait au crayon, il y a les fameuses planches très colorées. Il y a ce tableau du bureau de Florence Viala. Mmh. Là, j'y ai vu presque Matisse, la chambre avec vue sur la mer.
Ah oui, j'avoue que je... Peut-être, oui. Les époux Arnold Dauphy, parce qu'il y a un miroir. Non, mais elle avait une loge hyper zen, Florence. C'était à chaque fois très agréable, en fait, puisqu'il y avait un dispositif de triangulation où les comédiens échangeaient, bâton rompu avec Laetitia. Ils m'oubliaient, donc moi, je pouvais aller me poster dans deux ou trois recoins de la loge, qui sont toutes différentes, qui ont tout un univers vraiment très particulier et qui reflète, c'est encore là, on revient à cette devise de la Comédie Française, simul et singulis, être soi-même et être tous ensemble, et ça on le sentait, c'est-à-dire que chacun nous disait des choses très différentes, mais vraiment, sur son rapport à la loge,
il y a
celui qui veut pouvoir partir.
C'est investissement sur la loge qui est assez incroyable.
Oui, qui est projectif.
Moi qui je fais partie de la troupe là depuis 5 ans et demi, il y a un côté magique, il y a un côté c'est beau de voir l'investissement de la loge par certains acteurs qui sont là depuis très très longtemps, parce que c'est rare, il n'y a pas d'autre endroit, je pense peut-être à l'opéra, mais il n'y a pas d'autre théâtre, c'est rare de voir ça, parce qu'en général on s'installe dans un théâtre pour un certain temps, un temps défini, on n'est pas là, tandis que là on fait pas, ça fait, c'est presque un studio pour
c'est
certains,
chez vous,
et quand on est pensionnaire, on partage sa loge avec un autre pensionnaire, mais on a ce souci, cette envie aussi de l'investir et d'y apporter son âme.
Et quand on est sociétaire, on a la loge pour soi tout seul?
Oui, bon,
il y a bien quelques privilèges.
Il y a même certains pensionnaires qui sont déjà tout seuls.
Je vous taquine, mais à peine, c'était pour introduire ce chapitre avant la fin de l'émission. Et on parlera aussi de tout le travail jeunesse, parce que vous ne l'avez pas oublié, et éducatif de la Comédie Française. Il y a des privilèges. Et il y a notamment la galette des mécènes. On est quand même en France. Moi, j'ai vu le film aussi sur 1000 pas sur l'Opéra de Paris, où parce que le président de la République vient à la première, on l'avertit quelques heures avant le spectacle qu'on va jouer la Marseillaise avant. Mais je veux dire, on croit rêver, quoi. On n'est plus en République, on est en royauté. Oui. Et là, pareil, la galette des mécènes, c'est la galette de roi pour les gens qui donnent de l'argent pour la société, pour la Comédie Française, pardon. Et on voit bien que le côté privilège dans l'art en France, ça tient encore. Je suis sûre qu'il y a des pays où, effectivement, il y a du mécénat, mais il n'y a pas tout ce tralala, quoi.
Oui, enfin, pour avoir assisté à la galette des mécènes, j'ai pas trouvé que c'était, il y avait pas énormément, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Damien, mais il y avait pas un tralala absolument
non,
énorme.
Non, non,
c'est plutôt bon enfant.
C'est très convivial.
Oui, c'est bon enfant, mais entre soi.
Bah, en fait, ce sont quand même, mais, enfin, je peux pas dire que j'ai trouvé ça, enfin, ça m'a pas paru un privilège insigne. Ce sont des gens qui donnent, parce que ça fait partie des ressources de la Comédie française, hein, les mécènes, donc, bon, une galette, oui, c'est entre soi, mais c'est juste, enfin, ça m'a pas,
en tout cas,
c'est pas ça le privilège.
Bon, il y en a
après,
d'autres.
Vous avez une loge présidentielle, mais bon, c'est une institution,
absolument,
tout de même,
absolument,
avec des subventions, donc.
Oui, et nos impôts.
Voilà.
Et les billets. Alors, juste avant de finir, peut-être, le secteur jeunesse, hein, qui est vraiment un secteur éducatif où on a le souci de faire partager quoi ? L'art dramatique, le répertoire, l'institution, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ça ?
Bah, déjà, pénétrer. Enfin voilà, vous parliez du côté très un peu intimidant de cette institution là. Voilà, je me souviens des classes qu'on avait suivies avec Marine Jubin qui s'occupe du coup de avec voilà beaucoup de ferveur de ce service éducatif. Et elle tient vraiment à ce que tout le monde puisse venir. Voilà, et pour parenthèse, par exemple, il y a des enfants roms à Montreuil, voilà, qui sont à la rue depuis des mois, et Marine Jubin organise une visite de la Comédie française avec eux dans quelques jours. Donc elle tient vraiment justement à ce que ce soit ouvert à tous. Il y a voilà cette idée que ce qu'on n'est pas dans un répertoire comme ça hiératique et qu'on voilà qui est inatteignable.
Vous aimez vous en tant que comédien, messieurs, avoir des classes. Il n'y a pas vraiment de matinée scolaire, si non, pas à la Comédie française.
En général, ils font partie
du public.
C'est ce que nous disait justement Marine. Elle nous disait que ce qui est bien, c'est de métisser les publics. Rien de tel qu'un public hétérogène, parce que on rit pas aux mêmes choses. L'un au comique de situation, l'autre au comique de mots, etc. Et donc, je crois qu'ils font partie de. Par exemple, quand on avait rencontré la classe qui avait assisté à Roméo et Juliette, ils avaient assisté à une représentation et ils étaient mêlés.
La veille, en général.
Voilà, la veille de la.
Et puis, on rencontre des classes.
Ouais. Notamment super, autour du cerf et le cerf et le chien de Marcel Aimé, que vous jouez tous les deux d'ailleurs jusqu'au 8 janvier
au Studio Théâtre.
Au Studio Théâtre, vous aimez ces pièces plus destinées.
Mais bien sûr, mais de toute façon, c'est un spectacle. On s'investit nous en tant qu'acteurs, que ce soit un spectacle pour enfants ou un spectacle ou une pièce classique, on s'investit de la même façon. Il faut s'investir avec sincérité. Et moi, en tout cas, jouer un cerf ou jouer Paris dans Roméo et Juliette, j'y mets en tout cas moi la même fougue, la même générosité, la même envie de.
On l'a vu dans 20 milieux.
Comment ?
On a vu la fougue dans 20
milieux. Dans
les cris,
milieu,
et les cris.
Oui, parce que ça fait partie de notre travail d'acteur. Moi, je ne me dis pas, tiens, c'est moins bien parce que c'est un spectacle.
Non, est-ce que c'est pas plus léger, plus ludique, plus jouissif ?
Le travail est aussi. Oui, il y a ce plaisir-là, mais je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas dans la tête, je ne joue pas pour des enfants, mais je sais qu'il y a des enfants dans la salle. Mais je ne me dis pas, tiens, je joue un cerf pour un. C'est un spectacle familial. Moi, je n'y pense pas.
Stéphane
Varie. Oui, non, mais je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai que les enfants, c'est le public le plus difficile parce qu'ils sont très intransigeants aussi.
Ils vous surprennent.
Et ils sont très surprenants dans les réactions. Et non, c'est très très agréable. Moi, j'avais déjà fait les trois petits cochons aussi. Et puis chaque soir, il y a des classes qui viennent même pour voir les autres spectacles.
Oui, ça donc, aussi, c'est important.
Ouais. Hein.
On n'est pas obligé d'avoir des pièces dédiées, mais c'est important parfois pour démarrer.
Il y a un grand travail qui est fait au niveau du service éducatif.
Oui, Marine Jubé fait un travail formidable.
Avec la compagnie, je crois qu'il y a 20% du public et un jeune public.
Oui, oui. Hein.
Bon, mais c'est une bonne nouvelle. Merci à tous d'être venus pour présenter et accompagner dans les coulisses de la Comédie française. Donc, Laetitia Sénac et Damien Roudot, les éditions de La Martinière. Et puis, vos spectacles, évidemment, on va retrouver sur notre site et sur le site de la Comédie française. Les liens seront faits. Les dates pour Roméo et Juliette, puisque vous jouez encore, je crois, Roméo et Juliette.
Oui, voilà. Jusqu'à fin janvier.
Au 1er février, oui.
Voilà. Le cerf et le chien, mais il y a aussi la ronde, il y a le petit maître être corrigé Marivaux, qui démarre le 3 décembre jusqu'au 24 avril. Bref, je pense qu'il y a de quoi aller avec des classes ou en famille à la Comédie Française.
Il y a du divertissement.
Merci à tous. Merci. Le temps buissonnier, c'est fini pour aujourd'hui. Aline Payet, Franck Lilin, Annie Comier, c'est notre équipe. À la technique, Jean Guilin, Meige aujourd'hui. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie du journal. C'est le premier de la journée. Bon dimanche, à la semaine prochaine.